Je m'appelle Aurélie Plivazic, j'ai 28 ans et je suis professeure de français au lycée Anatole France de Lillers. Alors, bon, déjà, ce qui est drôle, c'est que je suis professeure dans le lycée dans lequel j'ai été élève au départ. Et donc, après avoir quitté Anatole France, j'ai été à Lille, donc en prépa. Et après, j'ai voulu poursuivre à Paris. Donc, j'ai envoyé mon dossier à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, et j'ai été prise. Et après, dans la foulée, comme j'étais auditrice libre, à l'ENS, et j'ai passé l'agrégation. J'ai eu le concours et je suis repartie dans ma région. Toute petite, on m'a laissé croire que j'avais peut-être un don particulier pour apprendre les choses. Et donc, j'ai toujours été très disciplinée par rapport au travail scolaire. D'une part, parce que c'était très facile. Et donc, forcément, quand on fait quasiment aucun effort et qu'on y arrive et qu'on se voit encensé par les profs et tout le monde nous aime bien, on poursuit, en fait. On poursuit dans cette voie-là. Et en primaire, on fait un peu tout et je me souviens, mais vraiment tout m'intéressait. Il n'y avait pas une discipline où je me disais, oh, j'aime pas du tout. En fait, tout était à chaque fois une sorte d'émerveillement. Chaque fois, oh mon Dieu, c'est génial. Et donc, il y a déjà ça. Et après, au collège, là, c'est plus devenu une compétition parce que j'ai rencontré finalement une élève qui était aussi forte que moi, voire parfois meilleure dans certaines matières. Et là, ça a réveillé un peu en moi le démon de la compétition. Donc, je notais mes résultats dans mon cahier de texte avec les matières et les coefficients. Et je notais les résultats de cette fille au crayon de bois. Je le disais pas vraiment aux gens, en fait. C'était vraiment moi pour moi toute seule parce que je voulais à la fin être première, en fait. Quand on rencontre quelqu'un de plus fort que soi, il faut juste l'accepter. On fait des efforts et ça marche pas, c'est pas grave. Mais par contre, faut pas abandonner. Et donc là, c'était pour le collège. Et puis bon, après, du moment où on n'a pas fait les mêmes options, donc après, nos chemins se sont un petit peu séparés. Et donc là, l'hégémonie est revenue. Après, du moment où elle était partie, j'étais plus première, deuxième, j'étais tout le temps première. Donc là, c'était plus rassurant. Ça peut paraître très narcissique, mais en même temps, je progressais, j'apprenais plein de choses, donc ça me faisait plaisir. Mais l'idée, c'est que parfois, on n'arrive pas à atteindre l'objectif et ça nous remet à notre place. Mes élèves, parfois, ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Et je leur ai dit, mais justement, commencer une licence dans ce truc-là, vous n'aimez pas, vous avez le temps, faites autre chose. Et je trouve que le fait de se diversifier et de faire des erreurs, ça peut être formateur. Que l'erreur est possible, que les choix peuvent être multiples. Et donc, ces élèves-là, il faut leur dire, trompez-vous. Parce que quelqu'un qui ne rencontre aucun échec, oh mon Dieu, ça va être horrible. Parce que, à force, il se croit vraiment invincible et la chute, elle peut être terrible si elle arrive un jour. oui, en fait, autant j'ai eu le code du premier coup, mais la conduite, je l'ai pas eu du premier coup. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je suis rentrée en prépa avec mes amis le dimanche soir et je me souviens, je suis arrivée dans le couloir et j'ai pris dans mes bras ma copine Louise et j'ai fait, je l'ai pas eu. J'ai pleuré pendant un quart d'heure. Et puis après, bon, ça passe, à coup de thé et de chocolat, on finit par s'en remettre. Puis après, on le repasse et puis après, on l'a, quoi, c'est tout. Et à un moment, on se dit aussi à ce moment-là qu'on n'est pas, finalement, on n'est pas invincible. Puis aussi tous les gens, même de votre famille, hein, qui sont bien contents que pour une fois, vous ayez raté quelque chose. Et puis ils vous le disent, finalement, tu vois, on peut dans la vie rater des choses. Et encore aujourd'hui, mon père me l'a rappelé. Hein. Ah je pensais que c'était hier, ça montre à quel point c'est encore frais. Oui, donc j'aimerais bien compter l'idée d'avoir été utile, d'avoir peut-être ouvert des chemins, ouvert des voies aux gens, sans forcément attendre qu'ils nous remercient après, en fait. Même si je suis plus forcément là. Le but, c'est qu'il continue sans moi, ce qu'on a commencé. Quand on dit déjà aux gens qu'on a un objectif intellectuel, je sais pas, dire à 80 ans j'aurais lu tout ça ou je cultivais à mort, ça, on fait peur. Hein. Honnêtement, on effraie les gens. Et je pense que de leur montrer qu'on a aussi un peu d'humour et que on aime bien des choses un peu moins élevées, ça les rassure. Ils disent, bon, finalement, ce n'est pas tant que ça un ovni, c'est un demi-ovni. Elle est comme nous, même si elle est bizarre. En fait, la folie que je pense avoir, elle permet de m'intégrer en société. Faut pas faire de sa vie une sorte d'ermitage et dire je reste dans ma propre culture parce que c'est agréable et c'est confortable.
Autour de Château-Vallon.
Bon, j'avoue, puis sortir plein, c'est plutôt en soirée, vous voyez, c'est plutôt... mes copines savent forcément que je vais leur caser, enfin, voilà, caler quelques musiques bien pourries. Donc mon top 3, autant être honnête hein, pour maintenant, je vais le dire. Donc alors, la première que je mets tout le temps en soirée, c'est Jean-Pierre François, Je te survivrai, un grand classique. Ensuite, Aimons-nous vivants de François Valéry. J'ai une choré en plus élaborée sur cette chanson. Et la troisième, c'est Puissance et gloire. Donc voilà. Puissance et gloire, quoi. J'ai l'impression que c'est une génération à laquelle on pense pas forcément beaucoup, parce qu'on estime que c'est à ce moment-là de la vie que les gens se posent. Donc il faut les laisser tranquilles parce qu'ils vont fonder une famille. Ils vont voilà, avoir des enfants, acheter un chien et acheter un scénic aussi parce qu'il faut mettre les enfants à l'intérieur. On doit rentrer dans une normalité. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, bah, c'est bon, on vous a laissé, entre guillemets, foutre le bordel, ne rien faire. Maintenant, c'est tout. Hein. Vous arrêtez d'être jeune, vous faites comme tout le monde, vous faites des enfants, vous procréez, vous formez les prochains et vous faites comme tout le monde. Vous vivez votre vie paisiblement, sans trop l'ouvrir, vous restez calme. Et c'est ça qui est parfois difficile. C'est qu'on a encore beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, et on a l'impression qu'on doit tout laisser tomber pour devenir des parents. Mais de ce fait, dans ce don de soi, on s'efface un peu. Parce qu'il est temps, à 30 ans, on a, comme si on avait déjà assez vécu, on arrête tout, et on transmet la vie au prochain. Et maintenant, on voit le prochain grandir, mais nous, c'est tout, c'était terminé. Il n'y a plus moyen de progresser, d'évoluer, c'est tout. Ça s'est arrêté, et on a transmis le relais, et on voit l'autre courir au loin, et nous, on reste là. Bah, à la fois, j'envie les gens qui sont normaux, qui ont déjà cette vie, parce que parfois ça semble plus paisible et plus stable. Et c'est parfois agréable hein, de les voir en société, ils rigolent avec leurs enfants, ils se tiennent la main entre mari et femme, c'est joli. Mais en même temps, comme en ce moment je n'arrive pas à accéder à ce niveau-là, parfois je suis un peu en colère. Parce que les parents vous répètent que c'est le moment, la société vous répète que c'est le moment... Et on a quand même, moi en tout cas, j'ai le sentiment parfois d'être moins acceptée en société parce que je suis seule. Et parfois on se dit aussi, oh, j'ai quand même de la chance de pas tout de suite avoir renoncé à cette vie-là. Donc voilà ce que dit Ronsard. J'aime être libre et veux être captif. 100 fois je meurs, 100 fois je prends naissance. Un Prométhée en passion je suis. Et pour aimer, perdant toute puissance, ne pouvant rien, je fais ce que je puis.